par exemple, qui mêle l'écologie et puis le monde de la féminine. Elle est aussi présidente du prix Julia Berlanger, elle est journaliste, elle est traductrice, et d'ailleurs, si vous avez lu Quantum et puis Nano de Peter Hamilton ici présent, c'est grâce à Sarah. Sarah connaît très bien Jean du Space Opera, ne serait-ce que parce qu'elle a côtoyé pendant pas mal de temps un grand auteur français de Space Opera, Roderick Lyerton. Peter Hamilton est ici présent britannique. Il vit près de Rutland, au cœur des East Midlands de l'Angleterre. Son genre de prédilection, c'est le space opéra. En tant qu'auteur, on lui doit un très grand cycle, le cycle de l'eau de la nuit, Night Dome, mais aussi le cycle du Commonwealth, qui démarre avec l'étoile de Pandore, se poursuit avec la trilogie du vide et continue encore de nos jours à travers une nouvelle série qui s'appelle Les naufragés du Commonwealth. Ce grand univers explore une civilisation humaine interstellaire qui est aux prises à la fois avec ses propres aspirations, mais aussi avec des énigmes extraterrestres. Alastair Reynolds, enfin, ici présent, lui aussi britannique, il vit au Pays-Gal, près de Cardiff. Lui aussi aime beaucoup le space opéra. En particulier, on le connaît bien en France pour son cycle des inhibiteurs, très apprécié des amateurs de space opéra scientifique. Il est lui-même scientifique de formation et cherche toujours à maintenir son œuvre dans le cadre du plausible. Ses œuvres ont souvent une tonalité sombre. En particulier, les inhibiteurs, ce sont des machines qui sont déterminées à éliminer toute forme d'intelligence organique. Et pourtant, ses œuvres ne sont jamais dépourvues d'espoir, ce qui vaut le coup d'être noté dans le cadre de la science-fiction. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, car nous n'aurons pas beaucoup de temps, et les nécessités de la traduction vont faire qu'on en aura encore moins que ce qu'il faudrait. Donc, on va commencer dans une première partie par se poser la question de savoir, bien après, qu'est-ce que c'est au fond ? Alors, pour lancer le sujet, j'aimerais déjà faire noter que quand on parle d'empire, on a toujours tendance à penser qu'il y a un empereur quelque part. Et donc, dans le cadre de l'Empire britannique, on pensera volontiers à la reine Victoria, qui régnait sur un empire colonial étendu sur pas moins de 5 continents et sur lequel on peut dire que le soleil ne se couchait pas. Donc, quelque part, est-ce que ce concept monarchique, est-ce qu'il peut avoir cours dans une civilisation galactique qu'on pourrait qualifier d'empire ? Sarah, je t'en prie.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire. Dans la littérature de space opéra avec des grandes impériums, pas forcément, mais un impérium collectif, ça peut aussi bien avoir un empereur que une assemblée qui va diriger avec des représentants des différentes planètes, avec des représentants des différentes civilisations avec plus ou moins d'importance selon qu'ils sont originaires des colonisateurs ou des colonisés. Mais je ne crois pas non que l'empereur, la monarchie soit absolument nécessaire à un consortium galactique.
Merci Sarah. On va laisser la parole au premier de ces messieurs qui est Sarah.
I'm not sure a monarchy applies or will apply to an empire that covers many planets. However, you will need something to hold those planets together.
Je ne suis pas sûr que le terme de monarchie soit applicable à un empire qui regroupe plusieurs planètes. Cependant, il faut une certaine organisation pour pouvoir diriger ces planètes.
Yes. In the past, it was one family. In the future, it will need something else, a common purpose, a shared interest, something to give the planets commonality. And therefore, you will have an empire, not in the way we used to have them, but certainly you will have an alliance, an association, something to bind these planets together, and that will be a unifying factor. That is your future monarchy.
Dans le passé, on avait plutôt une famille qui gouvernait, alors que là, on pourrait plutôt parler dans le futur d'un facteur commun, d'un élément unificateur qui puisse donc permettre de fédérer ces planètes pour pouvoir du gouverner.
I would say that the idea of galactic empire as it is usually understood is one of those concepts that entered into science fiction in the past but really doesn't stand up to close scrutiny. I think it's an idea that isn't consistent with our understanding of the way the universe works, physics, technology. It's an idea that it's attractive, but it's ultimately falls in the realm of fantasy, I would say. Unless, as Peter says, you expand your definition of empire to include simply a sort of shared set of shared ideals, I suppose, or a common purpose, then one can talk about you can legitimately speculate about a galactic society if we settle other planets and go beyond the solar system as a species. But the old notion of the galactic empire, the Asimovian galactic empire with a central capital, a very authoritarian control, I think that belongs to fantasy now. I don't think it's a science fictional idea.
L'idée d'empire galactique, comme on pouvait la concevoir il y a quelques décennies, en tout cas, pour moi, n'est pas vraiment quelque chose de cohérent, et je rejoins un petit peu mon collègue Stéphane Hamilton pour parler de ça, parce que on voit qu'il faudrait plutôt un groupe d'idées communs, un facteur commun, un dénominateur commun pour qu'on puisse parler d'empire, et c'est une définition qui pouvait être quelque chose d'employé assez fréquemment il y a quelques décennies, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, en tout cas, en termes de science-fiction.
Et dans toute une série d'autres œuvres de science-fiction, comme dans les œuvres d'Ayordal avec Jean-Méocratie ou Le Bain, ou même on peut aller jusqu'à Valentine Bradley, La Romance des Ténébreuses, on a justement des assemblées, des espèces de parlements avec des représentants des différentes planètes, des représentants des différentes civilisations, avec souvent le problème de. On se retrouve presque avec le vote censitaire, c'est-à-dire qu'on a généralement des planètes qui sont plus puissantes que l'autre, qui vont avoir plus de votes, plus de puissance dans les possibilités d'intervenir et de prendre des décisions, mais où tout le monde sera représenté à plus ou moins importante mesure.
Next question. D'accord. Donc, nos auteurs sont tombés d'accord pour dire que la notion d'empereur dans un empire galactique, c'est un peu dépassé. Plutôt qu'un empereur, il verrait plutôt des factions, des groupes qui unissent cet empire galactique. Alors, pour essayer de voir si on peut rattacher cette notion d'empire galactique à quelque chose qui nous reste connu, je fais un peu de latin. En latin, le mot impérium, ça fait référence à un pouvoir que l'empereur avait à l'extérieur de l'empire, à l'extérieur de Rome, pardon, c'est-à-dire le pouvoir militaire, le pouvoir de commander les légions. Si l'on fait le parallèle avec l'empire britannique, on se rappelle que c'était un empire colonial qui était étendu sur beaucoup de terres émergées, de l'Australie au Canada, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, du Pakistan à la Birmanie. Et que, en grande partie, cette puissance militaire qui était la sienne était navale. Le Royaume-Uni était, à l'époque et toujours maintenant, une très grande nation navale. Donc, cette notion de conquête militaire, est-ce qu'elle est obligatoire si l'on veut fonder un empire galactique ?
Sarah, je t'en prie. Disons en tout cas que dans l'essentiel des œuvres de space opera de l'histoire, oui, cette conquête militaire est importante, ne serait-ce que pour coloniser, ne serait-ce que pour annexer de nouveaux mondes, les attirer dans le giron de cet empire et leur apprendre les valeurs communes auxquelles ils doivent participer. Et donc je crois que ne serait-ce que dans les débuts, dans la création d'un empire galactique, sans cette puissance militaire, sans cette puissance militaire ou commerciale, mais une puissance impérialiste très importante, je crois qu'on n'y échappe pas.
Yes, one of the bedrocks of an empire is trade and wealth enforced by the military. The British Empire being a particularly bad example of this, in which India provided us with so much, and we just took the wealth which was enforced by our navy.
Bien, quand on parle de puissance commerciale en tant que de puissance invasive, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Empire britannique est un, particulièrement un mauvais exemple en la matière, particulièrement avec l'Inde, où on a vu qu'il y a beaucoup de richesses qui ont été pillées à l'époque.
Now, the thing with an empire or a group, or however we're going to define this, stretching over many star systems, is the economics is very different. Once you have the technology to fly between stars, you have the ability to terraform planets, to build habitats out of asteroids. It's not, you would not be an occupying power. This is going back to, you need the one unifying factor other than monarchy to band these people together.
Et lorsqu'on parle donc de groupes, d'empires, peu importe comment on les appelle, en tout cas, lorsque l'on parle de cela, on parle aussi d'économie et de système économique, et quand on a la puissance et les ressources pour pouvoir voyager d'un système solaire à l'autre et envahir d'autres planètes, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une force d'occupation dont on parle ici.
And this is my optimistic side coming out, is that I would like to think that if you have 20 planets and 20 star systems, what they will trade is knowledge and information and be helpful to each other.
Parce que moi j'essaie en tout cas d'être assez optimiste en disant que si on parle d'un système de 20 planètes, on ne commercera pas seulement des biens, mais aussi peut-être du savoir, et on échangera plutôt du savoir entre ces planètes.
The difficulty, I think, is that when we start talking in quite specific terms about how a galactic empire would or would not function, we quickly run up against real problems with the premise. The traditional sort of setup of the galactic empire, where you have one planet that produces the spice and another planet that produces the metals that everyone needs, it just doesn't have any basis in reality. That you know, the universe doesn't work like that. I mean, all the stuff that we would ever need is already in our solar system, and if you go to another solar system, you're just going to find more of the same elements, the same compounds. So there's never going to be any logical basis for interstellar trade as it's depicted in, say, Star Trek, you know, where the Ferengi have the cold-pressed latinum or whatever it is. I mean, it's a nice idea. It's fun. These are fun ideas to play with in a sort of light-hearted way in science fiction, but they just don't stand up to any scrutiny, and the whole edifice just collapses, I think, if you look at it too closely.
En tout cas, quand on parle d'empire intergalactique, on en revient aussi à la façon dont ça fonctionne. Et le système traditionnel qu'on peut voir parfois avec une planète qui produit des ébullitions, une planète qui produit des métaux, etc., ce n'est pas vraiment logique, puisque ce sont des choses qu'on retrouve dans notre propre système solaire. Et donc il n'y a pas vraiment de base logique là-dessus quand on regarde par exemple Star Trek, les Ferengi, etc. Ce n'a pas de base logique. Donc tout ce système peut parfois être amené à être un peu ébranlé en termes de cohérence.
I mean, you could even ask the question, okay, so you, hypothetically, you have interstellar travel capability. You have the means to build spacecraft that can leave the solar system. What do you actually achieve by doing that? You go from one solar system that's full of planets and moons and to another one. And why would you go to 20? You can sort of say, well, maybe there's population pressure, but I never find these you know, these arguments all that terribly convincing. I mean, we seem to be getting wiser as a civilization slowly, and I would like to think that the Pilgrim Fathers went to settle America because of religious persecution. Well, hopefully religious persecution won't be a driver for expanding into the universe. So what's left? Maybe political freedom, perhaps, but one would hope that we'd get better at that.
Evading taxes.
Yeah. I mean, I'm not knocking the concept of the Galactic Empire, because I love science fiction. I love science fiction that has galactic empires in it. But I think it's just one of those ideas that it pays not to look at it too closely, because you know it all starts falling apart if you're not careful.
Donc, quand on parle de système interstellaire, si on a la capacité de construire des vaisseaux interstellaires pour voyager d'une planète à l'autre, on peut se demander quelle en serait la raison. Et on peut aussi penser au fait que nous devenons une civilisation un petit peu plus sage, qui apprend de ses erreurs. Et lorsqu'on voit les premiers, les Founding Fathers qui sont allés aux États-Unis, les pionniers, eh bien, eux, ils se sont expatriés pour des raisons de persécution religieuse. Donc on pourrait se demander quelle pourrait être la raison pour laquelle on irait sur d'autres planètes, peut-être pour la liberté politique, ou peut-être parce qu'on a un système de taxes et d'impôts un peu trop lourd. En tout cas, si on regarde vraiment dans le détail, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce genre de choses-là, parce que sinon, toute la cohérence peut s'effondrer.
For those of you who were in here before listening to Christopher Priest, he said something which meant a lot to me. Was when he grew up, he read stuff that was written 20, 30 years ago, and one of the reasons he started writing was because there was newer things to say. And I think, and I'm sorry for ruining your premise here, I think empire, as the British Empire, as E. Doc Smith's empires, I think Al and I, we need to look ahead now to see what will come next rather than empire.
Bon, tout à l'heure, si vous étiez là pendant la conférence de Christopher Priest, il parlait du fait qu'il a commencé en remettant en cause ce qui avait été écrit, ou en tout cas en s'inscrivant pas dans ce qui avait été écrit 20 ou 30 ans auparavant, et qu'il avait des choses un peu novatrices à apporter. Et je ne dis pas ça pour remettre le thème en question, mais c'est vrai que cette notion d'empire, en tout cas, je pense qu'on pourrait plutôt se projeter dans le futur et voir les choses de façon un peu différente.
Merci. Donc, ce que nous avons retenu, c'est que l'Empire galactique n'est d'empire que le nom. Il n'a pas d'empereur. Il est tout juste maintenu par peut-être une idéologie ou bien des pratiques démocratiques. On l'espère, en tout cas. Peut-être a-t-il été conquis par la force, mais ce n'est pas certain, peut-être juste par une suprématie économique. Dans tous les cas, on sait qu'on peut quand même construire quelque chose, une civilisation dans l'ère galactique, et maintenant il faudrait qu'on puisse l'organiser pour qu'elle perdure un peu, ce qui est ce que tout le monde espère, j'imagine, quand on vit dans une culture donnée. Alors on va essayer de revenir un peu à l'Empire britannique, qui a tenu quand même pas mal de temps. On rappellera que l'Empire britannique maintenait sous l'Union Jack un certain nombre de pays bien différents. Donc a priori, il n'y a pas beaucoup de points communs entre l'Australie et le Canada, qui sont pourtant dans les deux cas deux colonies peuplement. Pas le même climat. L'un des deux pays possède des frontières continentales alors que l'autre, c'est une île. Pourtant, dans les deux cas...
Je suis désolé, je vous entends pas très bien.
Dans les deux cas, donc, l'Australie et le Canada ont comme point commun de parler la même langue. Donc, peut-être que c'est un point par lequel on pourrait commencer. Peut-être qu'un empire galactique, pour exister, pour avoir une force limitée, aurait besoin de parler la même langue partout. Et c'est là par ça.
Je ne suis pas certaine. Je crois que ce qui est toujours important, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est d'avoir une langue vernaculaire. Une langue qui ne soit pas forcément la langue dominante de chaque planète, mais qui soit la langue du commerce, la langue de la diplomatie, la langue du savoir, comme pendant très longtemps ça a été le français, puis maintenant l'anglais. C'est beaucoup plus le vernaculaire qui sera important que de forcer toutes les populations à parler exactement la même langue. Parce que d'ailleurs, dans l'Empire britannique, même dans le Commonwealth britannique tel qu'il est encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Écossais, les Nouveaux-Zélandais ou les Irlandais parlent exactement la même langue. Ils ont chacun un vocabulaire, des formes, même des structures de langue qui ne sont pas exactement les mêmes. Chacun a une partie de langue, une partie de vocabulaire qui est différente. Mais l'important, c'est d'avoir une langue qui permette de se comprendre quand on doit discuter ensemble, quand on doit discuter de commerce, de diplomatie, de politique, de savoir.
Merci Sarah. Alors, juste une chose. Tout à l'heure, tu nous as dit que avant, c'était le français qui était la langue de communication internationale. C'est pas pour rien, on parle de lingua franca.
Oui. Et avant ça, c'était le latin.
Et maintenant, la lingua franca, c'est l'anglais.
Je suis désolé, je vous entends pas, en fait. Ça résonne beaucoup et j'entends pas du tout ce que vous dites.
D'accord. Donc, je disais que de nos jours, on parle de lingua franca.
D'accord.
Et l'anglais est la lingua franca de nos jours.
So,
A common language, be it spoken language, computer language, will certainly help communicate between star systems. But something to back up what Sarah said there, yes, I speak the same language as Donald Trump. It does not mean I have the same views as Donald Trump. So yes, language is helpful, but language does not mean a uniculture. There will always be differences, which I think goes back to Al's point of why would you want to leave? Well, if Donald Trump becomes president, I can give you one reason. Yes, there will always be the wanderlust, there will always be the urge to go out there. And that I believe, is how we will start to build outside the solar system. It may well be that we think it is too crowded for us.
En parlant de langage commun, et je pense que c'est important, mais évidemment, moi par exemple, je parle la même langue que Donald Trump, pourtant il y a quelques différences dans nos points de vue, et en tout cas, c'est évidemment, c'est quelque chose qui peut nous aider en termes de culture unique. Et tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi on devrait partir ou changer de planète. Je peux vous dire que si Donald Trump devient président, j'aurai une bonne raison, en tout cas, de partir. Et il faut sûrement se poser la question, je pense, de ce que l'on peut construire en dehors de notre système solaire.
Every time I open my mouth, I say the problem is, you know, I feel like I'm constantly undermining the premise, but two things. One is any sort of attempt to use a political or historical model from the past and to think that will help us in any way thinking about colonizing outer space, I think is doomed to failure, because it's a completely different problem. We'll be a different society, we'll be a different species, we'll have different capabilities. Nothing that we learn from the British Empire or the Mongol Empire or the Chinese Empire or the Roman Empire, none of these historical lessons will be of the slightest use if we ever go out beyond our solar system. So that's point one.
Alors, la première chose que je voudrais dire, depuis tout à l'heure, je dis tout le temps, le problème est que, je pourrais aussi parler de choses un peu plus, en étant plus positif, mais si on se projette vers une colonisation en dehors de notre système et qu'on se base sur des choses qui ont déjà été faites par l'homme, si on se base sur les exemples de l'Empire britannique, chinois, mongol ou romain, on verra qu'on va se confronter à une société différente, à des espèces différentes. Donc, évidemment, ça mène tout droit à l'échec. Hein.
The other thing is, we already, here in 2016, we already have an increasingly sophisticated real-time translation capability. And ironically, one of the real drivers behind it has been a lot of the wars in the Middle East in the last 15 to 20 years. So there's been a lot of occasions when people need to make transatlantic telephone, international telephone calls, and you might want to translate between Arabic and American and vice versa. And you know, some of the large software concerns have suddenly thought, actually, there's a huge amount of money to be made if we can crack real-time telephone translation. And it doesn't work perfectly, but it works a lot better than people generally realize. So I think, you know, by the time we have interstellar travel, we the languages that we are speaking ourselves will be irrelevant, because we'll be able to move in a completely seamless translated environment. You know, we could speak a billion different languages. Each of us could have a private language, but the systems that surround us would allow for a seamless translation. We would all feel that we were speaking a common language, whether or not we were.
Bon, en 2016, on se rend compte qu'on a des systèmes de traduction qui sont de plus en plus sophistiqués, la traduction automatisée. Et l'une des raisons pour lesquelles on a inventé ces systèmes, c'était des raisons financières qui avaient trait à la guerre, par exemple avec le Moyen-Orient, avec des systèmes de traduction instantanée par téléphone entre l'arabe et l'anglais américain, par exemple. Donc, on peut se dire que le jour où on pourra voyager d'une planète à l'autre, on aura sûrement inventé d'ici là un système qui nous permettra de tous nous comprendre, peu importe la langue qu'on parle, même si on parlait un milliard de langues différentes. Je pense qu'on arrivera en tout cas à se comprendre tous les uns les autres sans avoir besoin de ces systèmes.
Just, can I just throw one more little point? A lot of science fiction, it does things like it will invent a galactic empire that is closely modeled on some period from human history. So it'll be like a Napoleonic galactic empire, where you have ships of the line that sort of, the administrative structures are sort of, loosely speaking, what applied during the naval conflicts of the early 19th century. But then they forget everything else. You know, they forget that computer power would have advanced, artificial intelligence would have advanced. So you end up with a very, to my mind, quite an old-fashioned, not very plausible way of thinking about the future. But it can make for really good entertainment. I don't sort of dismiss it on those terms. But it often doesn't really withstand any scrutiny when you think about all the other technological advances that would have happened in the same. You know, if we can build starships,
we can do
it. You know, we'll probably have cracked every single medical problem we can imagine. We'll have cracked human diplomacy. We'll have cracked language translation. So yeah, I think there's a lot of science fiction lets itself down when it sort of thinks of, you know, takes a political model from the past.
On pourrait imaginer un système intergalactique modelé par exemple sur l'empire napoléonien. Mais donc, on y mettrait aussi tous les conflits maritimes qu'il y a pu y avoir à l'époque, et donc ces guerres navales. Mais en tout cas, on oublie dans notre société actuelle tout ce qui est intelligence artificielle, donc ce serait pas très plausible, parce que si on peut construire des vaisseaux spatiaux, tout ce qui a trait à la diplomatie, à la traduction des langues qu'on parle, n'aurait pas vraiment... n'apporterait pas beaucoup de logique et de cohérence à nos récits.
Je vais juste ajouter une chose. C'est Jean Monnet, un des fondateurs de l'Union européenne, qui avait cette très belle phrase: la langue de l'Union européenne, c'est la traduction littérale.
To slightly build on what Alastair said, one of the best examples of future civilization, which incorporates just about everything we've been talking about here, and it is an empire, but it doesn't admit it's an empire, is Ian Banks's culture novels. They are probably the best example I can give of, it's a galactic one, yet Ian's still built in a lot of adventure and fun. But the concepts he based his empire on were this equality of everything, this leveling out of technology at a very high level and making it available to everyone. And that is a good empire. That is something that isn't based on the past. And this post-scarcity civilization, which he came up with a description of, that is something I believe we should leave as something for other the generations that follow us should aim for.
Et pour rejoindre un petit peu ce qu'Alistair disait, il y a les romans culturels, par exemple, de Yann Banks, qui sont vraiment...
La culture, le cycle de la culture de Yann Banks.
C'est le cycle de la culture, merci, de Yann Banks, qui est vraiment, pour moi, je pense, le modèle intéressant et pertinent, et qui est à la fois... qui est à la fois divertissant, et là on voit une version d'un bon empire qui n'est pas basé sur le passé, et le modèle de civilisation qu'il a créé est très intéressant, je trouve.
Merci déjà. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, les auteurs contredisent la plupart de ce que... des choses que j'essaie de leur faire dire. Alors, néanmoins, moi je remarque qu'ils nous disent qu'un empire galactique n'a peut-être pas besoin de langage commun, mais plutôt de communication instantanée. Ils nous disent qu'il ne faut pas regarder vers le passé, mais pourtant c'est ce qu'a fait l'Empire britannique pendant le siècle britannique de 1815 à 1914. On a mis en place le télégraphe électrique entre les continents, et on a inventé aussi le bateau à vapeur, qui permettait d'assurer des communications, donc des transmissions de données, mais aussi des transmissions de biens, voire de personnes. Donc on pouvait parler presque de première mondialisation. Donc quelque part, peut-être bien que cet empire galactique qu'on essaie d'imaginer, il devra au moins quelque chose à l'Empire britannique. Cette capacité à échanger des données, de l'information, mais aussi des biens, et favoriser le déplacement des gens d'un bout à l'autre des confins de l'Empire. Side of the world to the other.
Sarah, que penses-tu? What do you think about it, Sarah?
Je crois que de toute façon, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas reproduire ce qui a été fait, que reproduire les techniques, les politiques, etc., de quelque empire que ce soit, n'a pas le moindre intérêt. Par contre, regarder ce passé et voir ce qu'il a, ce qu'on ne veut pas reproduire, et ce qui pourrait être intéressant de réfléchir pour aller plus loin, peut être intéressant.
The idea of communication is a key factor in the type of civilizations we will have in the future. If we go faster than light, if we go down the Star Trek route, then anything is possible. And we will have this instant communication between stars, which will bind planets close together, not in a military sense necessarily. If FTL sadly isn't possible, then if you live at Alpha Centauri, it will take 4 years for a message to get there, it will take 4 years to get back. That will be a very, very loose association. That really will be no empire. So communication, yes, once again, communication rules the structure of our universe, or the structure of our civilization.
I think about this sometimes.
I'm sorry.
On parlait de communication comme étant un facteur clé, et c'est sûr que la communication instantanée à travers ces empires ou cet empire serait vraiment très très important. Et si ce n'était malheureusement pas possible, s'il fallait 4 ans pour aller d'un point à l'autre pour communiquer un message d'un point à l'autre, alors je pense qu'on ne pourrait plus vraiment parler d'empire.
I think a really authoritarian galactic empire could exist even without faster than light travel, because you could have, even though it might take 100 years for radio signals to get from one solar system to the other, if you had if each planet was governed with a really an iron authority that enforced a kind of social stasis, so there's no innovation, you just have the same political system year in, year out, maybe the face of the leader changes every now and again, but nothing else changes, then it wouldn't really matter what was happening over on that corner of the Galactic Empire, because you knew that they're just doing the same stuff we're doing. But it would be a really horrible sort of, thousands of years of just permanent stasis enforced by law. No one would ever be allowed to do anything interesting. You couldn't have anyone inventing anything, because that might destabilize the Galactic Empire. You couldn't have any art or culture, because that might upset things. So it would be horrible, but it would be one type of realistic Galactic Empire. How no one would ever, in their right mind, would ever allow that sort of thing to come into being, though.
On pourrait éventuellement imaginer une sorte d'empire intergalactique extrêmement autoritaire, ça pourrait exister. On pourrait imaginer un système de planètes avec vraiment des gouvernements de fer qui seraient aux commandes. Et là, on n'aurait pas besoin du coup, de communiquer de façon très rapide, puisqu'on saurait qu'il y a le même système politique en place d'une planète à l'autre, simplement en changeant de leader de temps en temps. Et le problème, c'est qu'on n'aurait pas beaucoup d'invention, pas beaucoup d'inventivité, de créativité, et ça, parce que ça déstabiliserait ces systèmes très autoritaires, évidemment. C'est pas ça qu'on imagine de façon, en tout cas, en priorité.
There is a story by the writer Greg Egan where on a planet in a kind of galactic empire, whenever anyone leaves the planet in a spaceship, everyone on the planet sort of agrees to go into hibernation until the space traveler gets back. So nothing happens. There's no social change. So when they get back, it's exactly as if they've never left. But that could only be done by consensus.
Il y a une histoire qui a été créée par Greg Egan qui parle d'un système intergalactique où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va de la planète, les autres rentrent en état d'hibernation jusqu'à ce que la personne revienne. Donc là, on a vraiment un statu quo social, mais qui est créé par consensus. Tout le monde est d'accord pour vivre de cette façon.
Parlons maintenant un peu de la condition indigène au sein de l'Empire galactique. Si on reprend l'exemple toujours de l'Empire britannique, on connaît le destin des aborigènes d'Australie. Dans le même temps, l'Empire britannique a permis à des jeunes gens, par exemple du Raj britannique, de l'Empire des Indes, d'aller faire leurs études à Londres. Et il est bien connu que Gandhi, par exemple, lui-même, était avocat au barreau de Londres. Donc, que faire des indigènes au sein de l'impérium ? Déjà, faut-il parler d'indigènes ? Est-ce qu'il peut y avoir des indigènes au sein d'un empire galactique ?
Bon, moi, je suis un petit peu la pessimiste de la bande. Hein. Mais bon, moi à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, je reviens à la colonisation, à la décolonisation. Tu parlais de l'Empire britannique. L'Empire britannique est quasiment le seul empire colonial à avoir créé une élite intellectuelle et une élite politique dans certains des pays qu'il avait colonisés. Ce n'était le cas ni de la France, par exemple, ni de la Belgique, ni de l'Espagne. Ce qui a fait aussi que certains pays anciennes colonies britanniques ont pu créer des gouvernements, etc., beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus, structurée que d'autres pays colonisés après une guerre de colonisation. Mais oui, est-ce qu'on parle encore d'indigènes ou est-ce qu'on est dans un empire où tout le monde est un citoyen de cet empire et tout le monde a les mêmes droits ? C'est à chaque fois de toute façon un choix. C'est un choix de part de l'auteur. S'il veut montrer un empire colonisateur qui réduit ses indigènes à une situation inférieure à celle des colonisateurs, ou si, au contraire, il fait tout pour les inclure dans ce truc, dans un empire. Je vais parler à ce moment-là du roman de Yos, Planète allouée, qui est une magnifique allégorie de Cuba, où la Terre a été incluse dans un empire galactique extraterrestre, mais où les Terriens n'ont pas le droit de quitter la Terre, n'ont pas le droit, sauf s'ils sont scientifiques, artistes ou putains. Mais on ne veut surtout pas que les êtres humains participent à l'existence de cet empire, en tant que sportifs. Et donc, ça dépend vraiment du choix de l'auteur. Est-ce que tu veux un empire qui soit beaucoup plus sage, beaucoup plus, qui veuille aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait dans le passé, ou est-ce qu'il veut, avec son empire galactique, donner un regard sur le présent et sur la manière dont nous traitons encore aujourd'hui à la fois les indigènes des pays étrangers et les étrangers que nous accueillons chez nous.
Yes, there are, in this case, spreading out across the galaxy, there are two cases. The first is if a planet or a solar system has just botany or non-sentient life. If the plants on another planet have produced miracles of medicine, what was on Avatar? It was some Pandora. It was some mineral that had to be mined. It does come down to author choice. You're quite right. Do we have the moral right to exploit a plant?
Je pense qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est si on parle d'un système solaire. Ça dépend du choix de l'auteur, évidemment, comme vous disiez, je vous rejoins. Est-ce qu'on exploite ça? Ou, par exemple, dans Avatar, c'est les minéraux, je
crois. Non, c'est une plante, c'est les plantes.
C'est les plantes. Voilà. Est-ce qu'on exploite cette plante ou pas? Puisque ça peut avoir des conséquences miraculeuses sur la médecine, etc.
But if we meet another sentient species, that is where politics and humanity really comes into play. If they are smarter than us, if they have a lower technology level, do we intervene? Do we go down and give them our technology? How do we treat others? Is a huge defining factor in what we are as individuals and as a civilization, and that is where individual authors have their own way of dealing it, and reflects a lot on the author and the author's worldview, which is what all art is about.
Là, on parle vraiment de choix artistique aussi, en tout cas de choix de l'auteur individuel, parce que si on va plutôt dans l'élément qui pour moi est important, c'est-à-dire quand on parle de politique et de société, de communauté humaine, si la société est assez intelligente pour ne pas intervenir, etc., sur les gens qui se trouvent sur cette planète, c'est vraiment un choix de l'auteur.
It does indeed come down to the choice of the story that the author wishes to tell. I mean, Isaac Asimov wrote about the Galactic Empire of the Foundation novels. There were no other aliens. It was a humans-only galaxy. So humans moved out from Earth and colonized the entire galaxy, millions of different planets. But indigenous aliens were never an issue. And I remember at the time when I read those books in the 80s, I thought, well, that's kind of unlikely, because there's bound to be another culture or civilization out there.
Alors, dans les romans d'Asimov, on voit qu'il y a des choses qui étaient complètement qui était assez différent.
Yeah, sorry, just, uh,
En fait, dans Fondation d'Asimov, on a affaire à un empire qui n'est que humain, où il n'y a pas le moindre extraterrestre. Or, selon Alistair, il est impensable qu'il n'existe pas quelque part une autre culture, une autre civilisation.
But if you would, I mean, my sort of position on that whole topic has sort of shifted in the last sort of few years, and I'm kind of the opinion that there probably isn't another extraterrestrial civilization in the galaxy. I think we're probably alone. So if I'm being realistic, because it's realistic to my own beliefs as a science fiction writer, I probably wouldn't ever need to think about indigenous cultures. But then you might think, well, actually, there's a certain type of story I want to tell. I want to tell a story about, you know, an alien equivalent of Gandhi. Then you would, for the sake of the story, then you might come up with a different premise, but it would probably go against my deeper convictions.
Je pense que, en tout cas, moi, ma position personnelle a changé à ce sujet-là. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait une vie extraterrestre. Je pense qu'on est seul, et en tout cas, c'est pas vraiment réaliste de parler d'indigènes, etc. Si on parle de par exemple, si on imaginait un Gandhi extraterrestre, eh bien, ça serait quelque chose d'assez irréaliste pour moi.
Alistair, I will give you no concurrent sentient species, but not no sentient at all.
In the galaxy. Well. Do you want to translate Peter's point there?
Sorry, I didn't listen because I was disturbed.
Yeah, sorry. I'm not agreeing to Alistair saying that you can have a sentient civilization, possibly all at the same time, but not no sentience at all.
Je pense qu'on peut avoir une civilisation sentiente.
Le mot existe en français.
Ok. Donc, je pense qu'on peut avoir une civilisation sentiente à la fois, mais plus qu'une civilisation, pas de civilisation du tout.
If you look at, well, for my argument is, if you look at the statistics, if we were to encounter an alien civilization, they would more than likely be more advanced than us. Probably been around for millions, if not billions, of years. So. The Star Trek scenario where the Klingons and the Romulans and the Ferengi and the Federation are all at about the same technological level does make for interesting stories, but it sort of requires some sleight of hand behind the scenes on behalf of the writers.
Bien.
Non, il faudrait peut-être traduire ce que vient de dire Alistair, en fait. Donc, il réitère le fait que pour lui, l'existence d'une civilisation extraterrestre sentiente est quasiment impossible. Mais par contre, si on regarde au niveau statistique, si jamais nous devions rencontrer une civilisation extraterrestre, elle serait certainement plus intelligente et plus avancée que la nôtre. Donc, mais bon, au-delà de ça, même si on croit qu'il n'y en a pas, l'existence de l'extraterrestre permet, en tant qu'auteur, de parler d'un certain nombre de choses. C'est un petit peu un jeu de miroir et fumée, d'illusion, comme un magicien, mais ça permet d'aborder un certain nombre de sujets qu'on a envie d'aborder, et l'extraterrestre, à ce moment-là, devient le prétexte pour un texte.
Un bon prétexte, alors. Bien. Alors, nous allons accélérer un peu pour vous permettre de poser des questions à la fin. Donc, je vais aller vers une dernière question aux auteurs ici présents. Je vais en revenir une dernière fois à l'Empire britannique parce que j'y tiens. Donc, l'histoire de cet empire colonial britannique est faite de phases d'expansion et de réduction. Donc, par exemple, à un moment, l'Empire britannique a perdu les 13 colonies américaines, qui sont devenues les États-Unis. Et dans le même temps, à peu près à la même époque, l'Empire britannique a réussi la conquête des Indes. Donc une espèce de compensation. Par contre, depuis 1945, on peut dire que cet empire n'en finit pas de tomber. Il y a eu la fin du Raj britannique avec les indépendances conjointes du Pakistan et de l'Inde. Il y a eu une époque assez récente, en 1997, la rétrocession de Hong Kong. L'Empire est devenu un Commonwealth où la plupart des nations sujettes ont été changées en république. C'est-à-dire qu'on est très très loin de la notion d'empire monarchique dont on parlait au début. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire que pour un empire galactique, mieux vaut-il être petit mais beau, ou bien trop gros pour échouer?
Cadeau. Ça dépend de ce dont on veut parler à nouveau. À nouveau. Et petit mais beau, l'Empire britannique, le Commonwealth, reste un ensemble de nations qui travaillent ensemble, même s'il n'y a plus l'autorité absolue de la reine d'Angleterre, ça reste un ensemble de pays qui travaillent ensemble. Et les premières colonies britanniques à avoir quitté l'Empire sont devenues l'Empire dominant aujourd'hui. Oui, je crois qu'il vaut mieux être petit et beau. Je crois que c'est plus intéressant. Je crois que c'est aussi plus intéressant pour rencontrer l'autre, pour construire des choses et partager des choses avec l'autre, que de vouloir absolument atteindre l'immensité, le pouvoir.
Merci Sarah.
In terms of future sizes, small and efficient when you're not on a limited planet, small and efficient when you're out in space, gives you the ability to grow, because you're small and efficient, you will expand, and then you will become large and inefficient. And then we'll probably do what the British Empire does, which will fragment into smaller, probably antagonistic to start with, and then they will go out as well. It is the cycle of life.
Si on parle du futur, on peut se dire que si on se projette à l'extérieur de notre système, si on est petit et bon, et bien, on va quand même, je pense, finir par grandir et puis par devenir un peu plus gros et inefficace. Et en tout cas, je pense que ça vient, c'est le cycle, en tout cas, de l'humanité. C'est comme ça que ça fonctionne.
I think we've had a cultural shift in the last 50 years or whatever, where the very idea of empire building, land grabbing, imperialism has gone from being a broadly, broadly aspirational thing, where British school children were taught to be impressed about how much pink there was on the map because that was the British Empire. Whereas now we see it as a sort of at worst a sort of mistake, and best a kind of mistake, and at worst a kind of aberration, a really abhorrent thing to do. And now when we criticise Mr. Putin for doing things in the Ukraine and Crimea, we talk about imperialism and adventurism. We've very clearly come down on the side that empires are, attempting to build empires is a bad thing that ultimately leads to friction with your neighbours.
Je pense que là, on a affaire à aussi un changement de perception, un changement de culture. L'impérialisme, cette aspiration de l'impérialisme, où on enseignait aux petits-enfants britanniques à identifier tout le rose qu'il pouvait y avoir sur une carte du monde, puisque c'était la couleur de l'Empire britannique, tout ça, c'est révolu. Aujourd'hui, c'est plutôt une sorte d'aberration et quelque chose qui ne fait plus partie de nos valeurs. Et quand on voit, par exemple, Vladimir Poutine, ces actes sont identifiés à l'impérialisme et c'est évidemment quelque chose d'assez différent. Il y a eu vraiment un changement à ce niveau-là.
For myself, I'm actually a bit of a federalist. I mean, I kind of like the idea of a European superstate. I think I might be the last person in Europe who thinks this is a good idea. And if someone came up to me today and said, you can surrender your British passport and you just get back a European Union passport and you're a citizen of Europe, I would jump at that. I would think that would be a beautiful thing. I would be really pleased to do that. Thank you. I worked for the European Space Agency for a long time. I got a lot of the benefits from free movement within Europe. So I suppose I've been brainwashed into the idea that it's a good thing. But I also accept that large entities become ponderous and inefficient. So there's always that trade-off. Not sure where the optimum point is.
En tout cas, pour ma part, je me considère comme un fédéraliste, et je crois que je suis peut-être l'un des derniers encore à croire que l'Europe, la conception de l'Europe comme un grand État, un super État, est quelque chose d'assez positif. Et si demain on me demandait de rendre mon passeport britannique pour l'échanger contre un passeport européen, je serais content. Alors peut-être que ça vient du fait que j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne pendant des années, où j'ai pu voir tous les bons côtés, comme la liberté de mouvement, de circulation, etc. Ça fait changer un petit peu peut-être mon point de vue, mais en tout cas, je comprends aussi la conception de cette grande entité un peu lourde et inefficace. Donc tout dépend. Enfin, je conçois ça aussi, en tout cas.
Très bien. Donc pour conclure sur ce que nos auteurs viennent de nous dire. A priori, l'Empire galactique, s'il a une chose de commune avec l'Empire britannique, bah, ça serait juste le nom, en fait, le nom d'Empire. Peut-être une survivante d'un souvenir immémorial d'une époque où on pouvait regarder les pays sur une carte et se dire « Ici, c'est chez nous, quelque part. » Donc, on va pouvoir vous laisser poser vos questions. J'espère que vous en avez beaucoup maintenant. Si vous souhaitez vous entretenir en particulier avec un auteur, n'hésitez pas à le signaler et puis on vous donnera la parole. Il y a une main qui se lève au premier rang. C'est du coup de moi de faire ça.
Merci. On parle des rapports qu'il pourrait y avoir entre l'Empire océanique et l'Empire galactique. Moi, j'imagine tout pour unifier tout un peuple, une civilisation autour de but commun, la création de symboles unificateurs. Par exemple, une histoire commune.
One factor which we haven't touched on this afternoon that would unify all the human planets almost immediately would be an alien threat. Now, we've done how you future economics will get rid of the causes of empire that we've had. But if they're alien, and we don't know their motivations, but they're just coming for us, we're their next meal, or whatever, that would unify us to an extent which you would be justified in calling it an empire again. It's not a good reason to unify, but it would be a very good reason.
L'une des raisons pour lesquelles on pourrait imaginer cette unification, ce serait par exemple une menace extraterrestre. Tout à l'heure, on parlait de facteurs qui pourraient nous amener à nous unifier. Celui-ci, en tout cas, je pense que ce serait un facteur vraiment qui permettrait cela. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne raison, mais en tout cas, c'en est une.
Il y a une personne au troisième rang qui
peut. Pour rebondir sur ce que Peter vient de dire, on signalera un fait historique. Dans les années 80, le président des États-Unis, Ronald Reagan, s'est entretenu avec le président soviétique, Gorbatchev, pour essayer de lui faire dire que, eh bien, en cas d'invasion extraterrestre, il faudrait que les États-Unis et l'Union soviétique travaillent main dans la main, alors qu'à l'époque, on vivait les derniers moments de la guerre froide. Et pour ceux qui s'en souviennent, la crise de l'Euromissile, c'était pas sympa du tout. Question suivante.
Oh, pardon. Reagan a aussi entretenu avec Margaret Thatcher pour
ce genre de choses.
Ce genre de choses en disant on va créer les guerres, comme ça on sera tranquille, et on va distribuer les drogues, comme ça on sera... les jeunes ne diront rien.
Oui, en effet. Donc, question suivante, s'il vous plaît. Il y a un micro qui circule. Merci beaucoup.
Bonjour, merci beaucoup pour la parole. En fait, je m'aperçois que vous êtes des gens très optimistes dans la conception de l'ambition collective. Je le disais comme désir fondamentalement humain de coloniser, d'agrandir son territoire, prendre possession des ressources, d'instaurer le pouvoir et donc l'empire galactique. Pour moi, finalement, c'est pas vraiment un fantasme, c'est ce qui risque d'arriver si on arrive à coloniser la planète. Mais la dimension de ce qu'ils ont fini par dire que c'était pas leur conception et c'était.
C'est la même. J'ai été la pessimiste depuis le départ, je suis d'accord avec vous, mais je suis très très pessimiste. Dans ma vision de l'humain et de ses envies, de pouvoir, etc.
The whole the language we use of colonizing and absorbing other people's resources, I would be horrified if we got to another star system and there was something living there, and we did that. I would say that was totally out of bounds, and that we should only ever build on our new world or whatever in completely sterile, barren star systems. I would think that would be, I would like to think the human race could aspire to that. So yes, I'm an optimist.
On utilise des mots comme colonisation, etc. Et je pense que si on se déplaçait vers un autre système et qu'on utilisait les ressources de cette planète et de ce système, moi je serais complètement horrifié. C'est pas du tout ma conception des choses. Donc oui, je suis un optimiste.
I'm sort of I'm somewhere between pessimist and optimist, I suppose. I wonder if we will ever leave the solar system. I mean, this is by no means a given, because we've not even managed to get back to the moon. I'm sort of doubtful that anyone will land on Mars in my lifetime. And the technological challenges involved in travelling to another solar system with people are immense. And I wonder if we'll reach a point where we could do it, but we'll sort of decide it just isn't worth the hassle.
Bon, moi je crois que je suis un petit peu partagé pour ma part. Est-ce que vraiment on pourrait arriver comme ça à sortir de notre système de planète? Je ne suis pas sûr, on n'arrive même pas déjà à revenir sur la Lune. Est-ce qu'on arrivera d'ici, de mon vivant, à aller sur Mars avec des hommes? J'en suis pas du tout convaincu. Il y a vraiment ici un challenge, un défi technologique qui est quand même très important.
Because there's a huge amount of space in the solar system. If we want to go, if you want to leave Earth, there's vast realms of space within our own solar system. And the other thing is, I think our knowledge of planets beyond, you know, around other stars will improve, because we'll send maybe robot probes and things. And we may reach the point where we think we already know about as much as we want to know, and there's really no point going there. So we'll just be quite happy to stay around the solar system and maybe sort of learn to live with each other.
En tout cas, moi, avec tout l'espace qui se trouve entre planète, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Mais après, on peut quand même arriver à aller explorer ces zones-là avec des robots, etc. Et peut-être décider que justement, c'est pas vraiment la peine d'y aller et se recentrer sur nous et essayer d'arriver à vivre ensemble.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je me disais, quelque part, la Terre, c'est peut-être un peu l'image de ce qui sera le futur au niveau créatif, c'est-à-dire un ensemble de pays, mais aussi l'ensemble de réunions politiques, mais aussi culturelles. Et moi, j'ai le sentiment que finalement, on en vient à l'union planétaire.
Qui se fait par la culture, donc par la politique, et voilà, je me demande, est-ce que vous pensez que ça peut être l'image de la galaxie? Si vraiment la Terre, notre planète, est l'image de ce que sera l'avenir de l'humanité dans les étoiles, ce sera terriblement triste et catastrophique. Parce que justement, l'union par la culture, etc., on l'a pas.
We will not be able to get out into the galaxy or even across the solar system if we stay as we are. We have to change, we have to improve. That is why I write science fiction.
Si on reste tel que l'on est aujourd'hui, on ne sera pas capable, en tout cas, de sortir de nos systèmes. C'est pour ça qu'on écrit de la science-fiction.
Yes, I agree. Whatever happens, we must improve, and I think we will improve. I'm nothing of an optimist. I mean, it's that thing that this quote that Martin Luther King said, and I always get it wrong, but something like the moral arc of the universe is long, but it bends towards freedom, or something like that. Like, so we kind of screw things up in the short term, and we look like we're making a terrible mess of the planet and living together, but over long periods of time, we sort of seem to be making tiny bits of progress in the right direction. Mm. So I really hope, I kind of cling to that, you know, I'm ultimately an optimist about the long-term sanity of the human species.
Non, je suis d'accord avec le fait qu'il faille changer pour pouvoir atteindre ce but. Il y a une citation de Martin Luther King que j'arrive jamais à citer correctement, qui parle de l'arc de l'humanité comme étant quelque chose de très grand, mais qui devient beaucoup plus faible lorsque l'on parle de liberté. C'est assez vrai au final, et je pense que quand même, je reste optimiste et je suis sûr qu'on peut arriver à changer pour pouvoir atteindre ce but.
Excuse-moi, on va prendre la dernière question pour cette session. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que la Terre pourrait déjà être intégrée dans un empire galactique et que nous ne le sachions pas?
Ça, c'est une bonne question.
Il existe un certain nombre de romans qui le disent. On fait partie d'un empire galactique, d'accord, mais pourquoi on ne nous dit pas et en quoi en faisant partie? Est-ce qu'on vient nous chercher nos ressources? Est-ce que c'est un obstacle?
The film Jupiter Rising. It would be nice to think there was somebody, maybe Alistair's billion-year-old civilization is watching us, and if we do drop the ball, they will intervene. But other than that, they let us try and evolve by ourselves. It would be nice. I don't know the answer to that.
J'ai pas vraiment de réponse à ça. Ça me rappelle en tout cas le film Jupiter Rising. On peut aussi penser au monde d'Alistair. Si on laisse tomber la balle, est-ce qu'on intervient? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse en tout cas à ça.
That was also the premise of the culture novels by Ian Banks, which were, well, people don't realize this, but it's not the future. A lot of the culture books are actually set in our past. because the culture already exists, it's already out there. It's a galactic empire that already exists. And in one of the books, they do make contact with Earth in the 1970s, I think, isn't it? There's like a sort of covert contact operation. But consider Phlebas is set in about the 13th century or something. It's set hundreds and hundreds of years ago because Ian had this idea that the culture was already out there.
Si on prend les rendus du cycle culturel, on voit qu'ils sont tous que le contexte est un contexte du passé avec ce côté de l'empire intergalactique et où on a par exemple des opérations de contact avec la Terre, je crois que c'est dans les années 70, il y a même des romans, des histoires qui remontent au XVIIe siècle, donc il y a vraiment quelque chose qui appartient ici au passé.
One of the main bits of science fiction that really switched me on to science fiction was The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And I love the idea that, you know, Ford Prefect was really an alien and he had the cosmic thumb so he could hitch a ride on the UFOs that were going past. And there was this huge empire out there, galactic civilization out there, and we just hadn't worked out how to tune into their radio signals. I thought that was brilliant.
Il y avait une histoire que j'adorais, c'était les autostoppeurs de l'espace hein, qui partaient comme ça. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, en tout cas, m'a beaucoup amusé.
Le guide du routard galactique.
Très bien. Donc, merci à vous pour votre attention. Merci surtout à nos invités qui nous ont fait bénéficier de leurs éclairages sur cette session épineuse. Et donc, profitez bien du reste de votre week-end aux intergalactiques, je l'espère.
Merci.